14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Le mystère est total au Grand Bornand, en Haute-Savoie, après la disparition depuis une semaine exactement de toute une famille. Un couple et leurs trois enfants, sans aucune explication, toute cette famille s'est volatilisée.
Bonjour. Quand la jalousie se transforme en ressentiment, en haine aveuglante et en vengeance meurtrière. Quand tuer devient la seule solution pour chasser une rancœur dévorante, tuer encore et encore, anéantir toute une famille, les parents et les enfants. C'est cette affaire qui dépasse l'entendement, l'affaire Flactif, le massacre du Grand Bornand, que je vais vous raconter aujourd'hui. Un bain de sang sur lequel vont se pencher pendant des mois enquêteurs et experts à la recherche du plus infime des détails qui pourrait tout changer à la poursuite de la vérité. Une tragédie qui aurait pu, qui sait, rester inexpliquée si une gouttelette de sang n'avait pas été retrouvée. À ce titre, cette affaire conduite par la gendarmerie, on va le voir, fait toujours figure de cas d'école en matière criminelle, même si aujourd'hui encore on se demande quels mécanismes ont entraîné une telle folie meurtrière. Nos invités et acteurs de cette histoire vont nous aider à répondre à cette question.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Flactif. Au printemps 2003, cette famille, installée dans une petite commune de Haute-Savoie, au pied des pistes de ski, paraît s'être tout bonnement évaporée, sans avertir qui que ce soit et sans laisser le moindre message. Ce samedi 12 avril 2003, Mario, 14 ans, descend du taxi qui vient de le déposer au lieu dit le Chinaillon, devant un beau chalet de bois clair, le chalet du Moulin, posé au-dessus du Grand Bornand, village d'altitude, niché dans le massif des Aravis. L'adolescent vient passer les vacances de Pâques chez sa mère Graziella, une femme de 36 ans, remariée au promoteur immobilier Xavier Flactif, 41 ans. Mario va pouvoir retrouver son demi-frère Grégory, 7 ans, ses demi-sœurs Laetitia et Sarah, 9 et 10 ans. Il aurait dû arriver la veille, mais sa mère lui a demandé de terminer sa journée de cours. Mario n'aperçoit pas le Toyota 4x4 rouge de son beau-père, qui plus est, il n'y a personne pour ouvrir la porte et sa mère est injoignable. Le garçon patiente, puis va se renseigner dans le restaurant du bourg, on ne peut pas beaucoup l'aider. La gendarmerie est avisée de cette absence, qui paraît pour le moment temporaire. Dans la soirée, les restaurateurs entrent dans le chalet par une porte-fenêtre non verrouillée. La maison est vide, aucun désordre, tout a été rangé. Dans la cuisine, le réfrigérateur est plein et une casserole de soupe semble prête à être réchauffée. Le lendemain matin, après une nuit d'attente, Mario retourne sur place. Il remarque que les lits n'ont plus de draps. Les gendarmes arrivent sur les lieux. Au cours du week-end de Pâques, une cinquantaine de militaires quadrillent le secteur du Grand Bornand. La rivière du Born est explorée, tout comme les rives du lac d'Annecy, à la recherche du 4x4 rouge. Un hélicoptère survole les lieux sans résultat. Le 20 avril, 8 techniciens de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie, l'IRCGN, s'installent pour 3 jours dans le chalet afin de recueillir le moindre indice. Après des heures de recherche, les experts découvrent entre les lattes du parquet d'infimes morceaux d'émail dentaire. L'analyse va montrer qu'il s'agit de dents de lait, très probablement celles d'un enfant. Les sols ont été nettoyés avec beaucoup d'attention. Les enquêteurs passent sur les lieux au Blue Star, un révélateur sensible à la présence de sang. Malgré le lessivage, les traces apparaissent. Les experts indiquent qu'elles ne correspondent pas à l'utilisation d'une arme à feu, mais plutôt à des coups violents. En témoignent encore les débris dentaires. Au sous-sol, un carré de moquette murale a été découpé. Une douille de petit calibre du 6.35 provenant d'un pistolet automatique est retrouvée au dernier étage. Le 22 avril, le procureur d'Annecy ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. 13 mai 2003, quasiment un mois pile après la disparition de la famille Flactif, leur Toyota Land Cruiser est retrouvé sur un parking de l'aéroport de Genève, très fréquenté par les frontaliers. La voiture aurait été préalablement aperçue garée dans un chemin forestier proche du Petit Bornand. Le véhicule a lui aussi été nettoyé, un morceau de moquette découpé au cutter. Il y a des traces de sang. Le père Xavier Flactif, acculé par des déboires financiers, aurait-il commis l'irréparable ? L'hypothèse est étudiée de près. Le procureur relève que le promoteur avait quitté précipitamment le nord de la France à la suite d'ennuis comptables qui ont fait beaucoup de clients mécontents avant de disparaître. Xavier Flactif a par ailleurs été entendu par les gendarmes après une plainte pour escroquerie déposée contre lui. Les Flactif étaient titulaires de pas moins 71 comptes bancaires. Ils affichaient un grand train de vie. Il n'en faut pas davantage pour susciter questions et interprétations. Pourquoi pas même un règlement de compte de la mafia? Les gendarmes vérifient. Ils prélèvent aussi les ADN de 130 hommes pour les comparer avec un ADN masculin étranger aux Flactif et retrouver dans le chalet. Et on va voir évidemment que cet ADN va donner une toute autre dimension à cette affaire, loin de la mafia et de la réputation d'affairiste du promoteur Xavier Flactif. Ce sera dans le chapitre suivant. Pour l'instant, on s'arrête à cette, il n'y a pas d'autre mot, stupéfiante scène de disparition. Et on le fait avec notre premier invité, le général François Daoust. Bonjour François Daoust.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous connaissez par cœur cette histoire. Vous êtes l'ancien directeur de l'IRCGN, ces experts dont j'ai fait allusion dans le récit. Ancien directeur de l'IRCGN, du pôle judiciaire de la gendarmerie. Professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Paris. On est là dans le cadre d'une disparition. Les personnes se sont volatilisées en nombre, puisqu'il y a 5 personnes qui ont disparu. Qu'est-ce qui cloche dans cette affaire tout de suite?
Mais la première chose qui cloche, c'est le témoignage du fils. Et le témoignage
Mario.
Du Mario, qui arrive sur place et qui fait remarquer à tout le monde que tout est rangé. Alors que vous comme moi, nous avons des enfants, nous habitons chez nos enfants. Mmh. Et à partir de ce moment-là, c'est un joyeux désordre qui est permanent. Là, 3 enfants, ben, on sait ce que ça peut amener. Donc que tout soit rangé, déjà, c'est pas normal.
Oui, mais là, ça veut peut-être dire aussi que les personnes ont décidé de partir, pourquoi pas, et qu'elles ont rangé, elles ont mis leurs papiers en place, elles peuvent être parties d'ailleurs pour quelque temps.
Il n'y a pas que. Il y a des incohérences. Si on décide de partir pour quelque temps, on remplit pas le frigo. On laisse pas une soupe prête à être réchauffée, on laisse pas les ordinateurs allumés, etc. Donc on voit bien qu'il y a certaines incohérences qui immédiatement c'est pas l'ambiance habituelle. Et là-dessus, le faisant remarquer, les gendarmes, après une recherche pour disparition, hein, toutes les hypothèses sont sur la table, eh bien, décident d'appeler l'IRCGN. Mmh. Et l'IRCGN envoie 8 experts. Et pour la première fois, c'est ce qu'on appelle une coordination des opérations criminalistiques. C'est-à-dire plusieurs experts avec les techniciens locaux.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est important de le signaler parce qu'il y a des experts spécialistes en empreinte, l'autre c'est l'ADN, etc., etc.
C'est ça, hein,
chaque fois, on a une spécialisation. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits puisqu'on trouve à travers les lattes du parquet, tout d'abord ces morceaux d'émail dentaire qui vont faire l'objet de vraiment d'expertises très poussées. Alors, on va essayer de savoir d'où ils proviennent.
Exactement. Donc c'est un long travail d'organisation pour savoir comment on va prélever et qu'est-ce qu'on va prélever. On n'y va pas comme ça avec les gros rangers, c'est on prend au hasard. Non, ça a été vraiment coordonné et c'est comme ça que sont retrouvés ces fameux petits éclats. Sur le coup, personne ne voit que c'est de l'émail. Pense à de la porcelaine très fine qui a été cassée. C'est prélevé, référencé à tel endroit. Les empreintes digitales qui peuvent exister, qui sont la vie normale dans une maison.
Une maison, bien sûr.
C'est tout à fait normal. On en trouve certaines, d'autres on ne trouve pas. On voit que ça a été nettoyé. Et troisième élément qui va venir par la suite, c'est le passage au Blue Star, dont vous parliez tout à l'heure. Et qui là, le Blue Star, lui, va révéler des traces d'essuyage, de nettoyage, c'est-à-dire le produit.
Il y a du sang.
Voilà, le produit révèle, dans un premier temps, il révèle quoi ? Il révèle les ions ferreux qu'il y a dans le sang.
Tout à fait.
Après, il faut voir si c'est du sang humain ou pas.
Bien sûr.
Là, donc,
les expertises sont toujours un petit peu longues, évidemment, puisqu'il faut que les résultats arrivent. Mais le fait est, c'est qu'il y a des indices qui sont troublants, c'est le moins qu'on puisse dire, et ce, dès le début, hein, dès les premières constatations des policiers. Bonjour, Patrick Alain Bertoni.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en ligne avec nous dans cette émission et en direct. Journaliste, vous avez suivi l'affaire pour votre publication, le journal hebdomadaire, un hebdo départemental qui s'appelle le Faucigny. Patrick Alain Bertoni, qui est cette famille qui a disparu, les Flactifs? Parce que d'un seul coup, c'est la stupéfaction dans ce village.
Alors, elle est composée de Xavier Flactif, le père de famille, de Graciela Ortolano, sa compagne, et donc de trois enfants, Sarah, 10 ans, Laetitia, 9 ans, et Grégory, 7 ans. Ce sont des gens qui sont arrivés du Nord-Pas-de-Calais. Xavier Flactif y avait connu quelques revers dans son métier de promoteur immobilier. Mmh. Il avait d'ailleurs une association de propriétaires mécontents qui avait esté en justice contre lui. Donc, il était arrivé au Grand Bornand, station de sport d'hiver, notamment avec le hameau du Chinaillon. Et là, très vite, il s'était révélé comme un flambeur de l'immobilier, achetant des terrains à des prix qui jusqu'alors n'étaient pas pratiqués dans le secteur. Donc ça lui avait valu quelques inimitiés ou quelques suspicions plus exactement, d'autant que s'étant mis à construire des chalets d'un bon standing, il se faisait souvent tirer l'oreille pour payer les artisans.
Oui, donc effectivement, alors là, ça pose quand même des questions, parce qu'effectivement, le profil, il n'est pas très lisse de M. Flactif. Hein. On peut dire qu'il fait beaucoup d'affaires, et peut-être des affaires qui font beaucoup de mécontents. Bonjour, Maître Didier Lec.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime, et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Alors, vous allez être, très vite, hein, l'un des avocats de David Otia, qui va être, on peut le dire comme ça, le principal accusé dans cette affaire. Là, pour l'instant, il n'est pas... suspecté pour l'instant, on est au tout début de l'affaire. Il fait partie de la famille de voisins qui habitent quasiment en face du chalet où les Flactifs ont disparu. Ils sont questionnés, les Otia. Qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là, au tout début de l'enquête? Ils n'ont rien vu, rien entendu?
Bah, ils sont questionnés au même titre que tous les autres voisins.
Exactement, c'est une enquête de voisinage classique.
Donc ils font partie, de façon assez logique et méthodique, de ceux qui sont entendus, et ils disent rien d'intéressant pour l'enquête. Ce qui va, dans un premier temps, indépendamment des constatations matérielles qui ont été rappelées tout à l'heure, la première fois, en tout cas dans le cadre du dossier de la procédure, je n'étais pas dans les arcanes des secrets de l'enquête, mais la première fois où le comportement de David Otia fait question aux enquêteurs, c'est qu'on le surprend en train de regarder depuis son domicile ou depuis un flanc de colline à la jumelle le travail des enquêteurs.
Bon. Ils s'intéressent à ce qu'ils font.
Oui, en même temps, qui sur l'autoroute n'a pas ralenti à l'endroit d'un accident pour regarder ce qui est en train de se passer?
Complètement d'accord.
Donc,
lequel des voisins n'a pas essayé de voir ce qui se passait chez l'autre voisin?
Exactement. Mais en tout cas, c'est la première manifestation en procédure dans laquelle on souligne un comportement qui, à tort ou à raison, est considéré comme susceptible d'être intéressant, pour les enquêteurs.
Général François Daoust, vous êtes l'ancien directeur de l'IRCGN. Alors évidemment, il y a toutes ces analyses techniques. Et puis, ce que nous rappelle Maître Didier Lec, c'est qu'il y a aussi cette enquête classique de voisinage, etc. Il y a aussi, on en a parlé rapidement avec Patrick Alain Bertoni, l'histoire des finances.
Tout à fait.
Vous y intéressez à ça tout de suite?
Alors, ça, ce sont les enquêteurs. Les enquêteurs vont partir sur toutes les pistes, parce qu'il faut fermer les portes les unes derrière les autres. La piste possible, après tout, pourquoi pas d'une fuite, même si les éléments matériels laissent entrevoir qu'il y a autre chose. La piste financière, de concurrents, d'une faillite renouvelée, de partir avec un détournement d'argent et tout, n'est pas négligée, loin de là. Mais pour partir avec une famille, ça laisse quand même des traces.
5 mois vont s'écouler sans que l'énigme des disparus du Grand Bornand ne puisse être éclaircie. Après des expertises et des contre-expertises, l'ADN mystère prélevé dans le chalet va révéler un nom. Ce 8 juillet 2003, les enquêteurs prennent connaissance des expertises ADN fournies par un laboratoire de Nantes. Une tache de sang, quelques gouttes, ont fini par matcher. Il s'agit de l'ADN d'un dénommé David Otia, 31 ans, mécanicien, employé dans un garage d'Annecy-le-Vieux, installé depuis 2 ans en Haute-Savoie. L'homme est surtout le voisin direct des Flactifs. Avec sa famille, sa compagne Alexandra et 2 jeunes enfants, il habite le chalet voisin que lui loue le promoteur. Il a indiqué qu'il avait vu Flactif pour la dernière dernière fois le 11 avril vers 18h30. Il lui avait remis le jeu de clés d'un chalet. Le 17 avril, les gendarmes ont remarqué le mécanicien alors qu'il épiait leur travail dans la maison des disparus. Les Hautiats ont encore attiré l'attention en témoignant à la télévision, livrant un témoignage sans concession et même virulent à l'encontre des flactifs.
Ça se trouve, il s'est barré, puis il est sur son bateau bien cool, tout le monde cherche après lui. C'est incroyable qu'il puisse y avoir des gens comme ça, hein, qui fassent du mal aux autres, parce que lui, il s'en mettait plein les poches. Je veux dire que le chalet où est-ce qu'il habite là-bas, c'est quelque chose. Il y a 400 mètres carrés habitables. Un sous-sol, vous pouvez mettre 3 bus dedans, tellement c'est immense, puisqu'on l'a, il se barre.
Puis bon, apparemment, ils ont pas l'air de trouver grand-chose, quoi.
Pas d'interpellation immédiate, le suspect est placé sur écoute. Un couple d'amis, Stéphane et Isabelle Aremza, également originaires du Nord, apparaît dans le champ des investigations. 6 septembre 2003 au matin, les Hautiats et les Aremza sont interpellés, placés en garde à vue. Hautiats avoue d'emblée les crimes afin, dit-il, de soulager sa conscience. Il raconte qu'il ne supportait plus Xavier Flactif, qu'il le menait en bateau avec ses histoires de logement. À cause de ses promesses non tenues, lui et sa famille ont dû déménager à 3 reprises. Le 11 avril, aux alentours de 17h30, il dit s'être rendu chez le promoteur pour s'expliquer. Il avait avec lui un petit pistolet chargé qu'il avait volé 3 ans plus tôt à son grand-père. Seuls les enfants étaient là. Il a patienté dans le salon. Graziella est arrivée 20 minutes plus tard, puis enfin Xavier. Le ton est monté. Un coup de feu est parti et a touché Xavier à la tête, affirme Hautiats. Il indique s'être affolé, avoir tué les 3 enfants qui prenaient leur goûter. Il est ensuite descendu au rez-de-chaussée où il a abattu Graziella. Il affirme avoir déposé les corps dans le 4x4, puis il a nettoyé les lieux. Alexandra Lefebvre, sa compagne, indique que David est rentré le 12 avril au lever du jour. « Oui, je l'ai fait », aurait-il dit. Elle raconte que le projet de tuer le promoteur lui trottait dans la tête depuis des semaines. En garde à vue, David Hautiats conduit les enquêteurs là où il a brûlé les corps, dans le chemin forestier du bois du Roi du Mont, à 6 km de Villars-sur-Thône. Un lieu de crémation est encore visible. L'homme indique avoir empilé les corps et les avoir embrasés avec de l'essence. Le feu a atteint une température de près de 800 degrés, selon les experts. Hautiats a jeté ses restes calcinés dans le torrent, puis a fait son possible pour ramasser tout ce qui pouvait indiquer une présence humaine, notamment des morceaux d'os et de dents. Le but de tout cela avait été réfléchi, va dire l'intéressé aux gendarmes. Et on va voir dans les chapitres suivants, on va raconter comment la haine l'a emporté pour commettre ce carnage. Maître Didier Lec, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, vous allez assurer très rapidement la défense de David Hautiats. Dites-nous tout simplement, qui est cette famille, les Hautiats? Déjà, présentons un petit peu ses voisins.
David avait fait des études sommaires, il avait un BEP, il avait travaillé comme soudeur, et puis il a quitté le Nord où il était installé pour venir s'installer dans la région du Grand Bornan, où il a eu un premier emploi de monteur de pneus, et où il a été amené à rencontrer la famille Flactif, et plus particulièrement le père de famille, puisque à la recherche d'un logement, il a entretenu des relations avec lui qui se sont avérées, sinon conflictuelles, en tout cas extrêmement difficiles.
Ça se passe mal, cette histoire de logement.
Ça se passe mal parce qu'en réalité, Xavier Flactif, paix à son âme, avait un comportement globalement indélicat avec tous les protagonistes qu'il pouvait croiser dans la vie. Fournisseurs, clients, intermédiaires, j'en passe, et des meilleurs. Et de fait, les Hautiats qui cherchaient, vous l'avez dit tout à l'heure, à se loger, ont été logés par Monsieur Flactif, mais un peu comme des utilités. C'est-à-dire que quand il y avait quelque chose qui était disponible, il y allait, mais dès que ce disponible était susceptible de rapporter plus, ils étaient priés de déménager.
D'accord,
et donc, de déménager, vous l'imaginez bien, sans délai de prévenance.
Oui,
et
puis avec les enfants, etc.
Et absolument. Et il y a eu un épisode qui l'a marqué, et aurait marqué n'importe qui, c'est qu'il y a eu un déménagement extrêmement précipité, une veille de Noël. Bon, donc, c'est un secret pour personne, et ça, ça n'est pas contesté. Beaucoup de choses sont contestées dans ce dossier, mais ça, ça ne l'est pas. Otia trouvait que l'autre se comportait extrêmement mal.
C'est le déclic, cette histoire de Noël, je crois. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va...
Le déclic, je ne sais pas ce que vous pensez. Le déclic de quoi, serais-je tenté de vous dire ?
Le déclic psychologique, cette espèce de...
En tout cas...
On a l'impression qu'il y a une espèce de haine qui va monter.
Ça participe de la détérioration, pour employer un mot neutre, de la considération qu'a David envers M. Flectif.
Patrick Alain Bertoni, journaliste pour Le Faucigny, vous avez suivi toute cette affaire. À quoi ressemble le lieu où on a découvert les corps calcinés ?
Le lieu se trouve dans l'aval du Grand Bornan, juste avant Thônes. C'est dans une forêt, donc, et le lieu est desservi par un chemin carrossable qui, tout l'été, donc d'avril à septembre 2003, est arpenté par des promeneurs, par des vététistes, par des 4x4, et jamais personne ne remarquera que dans un coude de ce chemin, une crémation eut lieu. Il faut dire que les dernières fontes de neige et les pluies ont lessivé
bien sûr.
Le terrain. Le coude se trouve dans un endroit d'où ruisselle l'eau et donc tout est précipité dans le contrebas. Donc il n'est pas étonnant que personne n'ait rien remarqué pendant tous ces mois.
Un petit mot, Maître Lec, il se met tout de suite à table, votre client. Il raconte tout de suite. Alors, les gendarmes, ils sont à midi dans la forêt pour retrouver peut-être les corps.
Alors, à l'époque, ni Luc Brossolette, avec qui j'ai eu l'honneur de défendre David Otia, ni moi-même n'étions les conseils de David Otia. Mais ce que vous dites est procéduralement exact. Il est placé en garde à vue. Et lors, je crois, c'est un emprunt de mémoire, c'est ancien, on parle de l'année 2003, lors de sa deuxième audition, il est amené, dans des conditions dans lesquelles on pourra d'ailleurs éventuellement reparler, à, globalement, comme on dit pour faire court, reconnaître les faits.
Voilà. C'est ça.
Donc, il reconnaît être l'auteur.
Et il donne beaucoup de détails. Général Daoust, là, vous suivez cette enquête, etc. Vous y êtes depuis le début dans cette enquête. Est-ce que la version que donne David Otia paraît vraisemblable, le mécanisme de la manière dont il aurait tué toutes ces personnes?
En partie vraisemblable, mais il y a des actes dont il ne détaille pas, il reste flou, ou quand il signifie qu'il a utilisé plusieurs fois le pistolet, c'est là où ça correspond pas. Ça correspond pas. Mais globalement, le déroulé des faits qu'il donne a une certaine cohérence chronologique. Mais la surprise est pour les gendarmes quand ils arrivent sur les lieux de la crémation.
Les lieux de la crémation que racontait Patrick Alain Bertoni, oui. Ce lieu qu'il faut connaître, qui est un peu particulier, c'est quand même rare dans une affaire criminelle que la personne qui est accusée, qui est interrogée, donne tout de suite les lieux où les choses se sont passées finalement. Oui.
Et ça c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle être des aveux circonstanciés. C'est à partir du moment où on donne des éléments matériels qui sont liés à l'affaire et vérifiables, eh bien c'est quand même autre chose que des aveux spontanés ou forcés psychologiquement. On est sur autre chose. Là, mais les gendarmes arrivés sur les lieux appellent de nouveau l'IRCGN parce qu'ils ne voient rien, ils ne trouvent rien.
Il n'y a pas de trace.
Il n'y a pas de trace. Nous sommes plusieurs mois après. La nature a avancé. Il y a eu certainement de la prédation. Il y a eu du lessivage, etc., etc. Ils disent, mais bon, est-ce qu'ils ne nous racontent pas quelque chose qui n'a pas lieu d'être? Et c'est là où on en voit d'autres experts, de nouveau. Une dizaine d'experts va être 5 exactement spécialisés, dont un spécialiste, un anthropologue, pour tamiser tout le talweg qui remonte et qui descend.
Et là, vous allez retrouver effectivement
voilà. Des
petites traces qui vont parler. Malgré des aveux circonstanciés et la découverte des corps, l'enquête est loin d'être terminée. Les gendarmes et le juge d'instruction vont chercher à comprendre pourquoi un tel massacre. Lors de sa garde à vue, David Othia a déclaré qu'il avait tué le promoteur Xavier Flactif sur fond de jalousie, de frustration et d'exaspération. On avait l'impression, Alexandra et moi, qu'il ne nous respectait pas. Le suspect numéro 1 raconte qu'il a déjà eu un accrochage avec Flactif. Il dit l'avoir secoué, mais celui-ci s'en foutait et rigolait. Othia n'avait dès lors cessé de dénigrer cet homme originaire des Antilles, multipliant à son égard les allusions racistes et insultantes. Othia enviait son riche voisin et son train de vie. En regardant une émission de télévision sur l'affaire Alfredo Stranieri, un homme ayant tué un restaurateur et pris sa place, il aurait eu l'idée machiavélique de faire disparaître toute la famille. Il aurait fait croire que les Flactif avaient décidé de s'installer à l'étranger après avoir liquidé leurs biens et lui avoir vendu leur chalet. Othia se serait installé dans la maison grâce à un faux acte de vente, une transaction à 300 000 euros. L'idée venait de moi, j'avais pensé à les étouffer, à les faire brûler, dira-t-il. 10 octobre 2003, moins d'un mois après ses aveux, David Othia revient sur ses déclarations. Il indique avoir parlé sous la pression. Ses avocats contestent une garde à vue qui n'aurait pas été conduite dans les règles. Le suspect gardera désormais le silence, malgré des faits qui l'accablent. Octobre 2004, plus de 13 mois après sa mise en examen, Othia livre une nouvelle version des faits. Il parle de deux hommes cagoulés qui auraient tué la famille. Il aurait été frappé et contraint d'assister au meurtre. Maître Didier Lec, vous défendez à ce moment-là David Othia. Pourquoi est-ce qu'il revient sur ses aveux? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, la chronologie exacte est la suivante. Il reconnaît les faits dans des conditions qui peuvent être discutées, qui de notre point de vue étaient procéduralement discutables, mais pour s'en tenir aux faits, il les reconnaît, avec, et je remercie le général Daoust de le rappeler, des aveux que j'accompagne à titre personnel de guillemets qui ne satisfont pas l'accusation, puisqu'il y a, on l'appelle comme on veut, des incohérences, des absences de concordance. Bref, ce sont des aveux qui, du point de vue même de l'accusation, font question. Il les réitère devant le juge d'instruction lors de sa première comparution, et ensuite, contrairement à ce qui a été souvent dit à tort, nous ne sommes pas, Luc Brossolette et moi, ses conseils, lorsque le 10 octobre 2003, il dit de façon sibylline au magistrat instructeur « Je n'ai pas commis les faits et je ne peux pas en dire plus, sinon que ce n'est pas moi. » Luc Brossolette et moi intervenons après.
Après. Et qu'est-ce qu'il va vous dire après, alors, là-dessus? Est-ce qu'il vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit, alors, la première fois que vous le voyez?
Ce qu'il nous dit est couvert, vous l'imaginez bien, par quelque chose auquel tous les avocats, comme les journalistes, tiennent comme la prunelle de leurs
Évidemment.
Yeux, c'est le secret professionnel.
Évidemment, jamais trahi.
Ce que nous lui disons, c'est que les conditions dans lesquelles il a été gardé à vue et entendu posent problème, puisqu'il était déjà à ce moment-là d'évidence. Un enfant de 5 ans s'en serait aperçu en lisant la procédure. Il était évidemment déjà dans la tête des enquêteurs un suspect. Il est trop longtemps, de notre point de vue, entendu comme témoin. C'était un témoin bien singulier. Et qui plus est, c'est de la cuisine, mais ça a son importance, les règles de procédure, on le fait prêter serment. Donc, nous faisons de la procédure, nous remettons en cause sa nullité, et vous l'avez dit tout à l'heure, la Cour de cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation, en mai 2004, va nous donner tort. Pendant tout ce laps de temps, David Othia ne répondra pas aux questions du magistrat instructeur.
Il répondra pas aux questions. Patrick Alain Bertoni, journaliste au Faucigny, qui avait suivi cette affaire, il y a un petit mot sur ce plan machiavélique, s'emparer de ce chalet. Ça paraît totalement presque enfantin, cette histoire de faux actes de vente.
Complètement. Complètement, c'est Alexandra Lefebvre qui a une certaine pratique de l'ordinateur qui se charge par des copier-coller de produire ce document pseudo-officiel. Mais ça démontre aussi cette volonté farouche qu'avait David Othia, quelque part, sur le mode « je t'aime, moi non plus », de réussir comme Xavier Flactif, mais de réussir très rapidement comme Xavier Flactif.
C'est ça, il voulait être important, il voulait montrer que lui aussi avait une certaine surface. Général Daoust, les faits sont têtus, j'ai envie de dire, de votre côté, parce que vous, vous accumulez les éléments techniques, et ces éléments techniques, eh ben, ils sont un peu incontournables.
Eh oui. Il y a les éléments d'enquête relevés par la section de recherche Chambéry, qui a été, qui les a récoltés à foison. Et après, il faut les mettre en cohérence pour que ça parle et ça raconte une histoire. Mais il y a aussi les éléments matériels et le retour des expertises, les unes derrière les autres, qui viennent apporter des éclairages sur le déroulement des faits à l'intérieur du chalet. C'est ça qui est important. Par exemple, les petits éclats de porcelaine, l'analyse a montré que c'était des éclats de dents de lait. Donc, dans la
c'est un enfant, en général.
Dans la déclaration, finalement, le coup est parti tout seul, puis après, j'ai pas pu faire machine arrière, je tue chacun d'un coup de feu, et là, ça marche plus. Et les traces de sang montrent vraiment autre chose.
Elles ne correspondent pas à des coups de feu, c'est ça que vous voulez dire.
Voilà.
Donc, il y a ces incohérences qui vont rester dans le dossier, effectivement, et Maître Lec le soulignait très bien. C'est gênant, ça, à ce moment-là, dans le dossier? Ou bien vous avez la certitude, vous, de tenir quand même fil important?
En tant qu'expert, ce que l'on donne, ce sont des résultats scientifiques. Après, les enquêteurs et surtout le juge d'instruction, c'est lui qui s'en nourrit pour construire la preuve pénale. Donc, on donne tout ça. Et au vu des déclarations, on nous demande si est-ce que c'est cohérent.
Est-ce que ça cadre ou pas,
ouais, c'est ça. Ou pas. Et quand ça cadre pas, c'est dire que la version donnée n'est pas tout à fait celle-là.
Tous les acteurs impliqués dans cette tragédie vont être renvoyés devant la cour d'assises. Au regard de la cruauté du massacre, le principal accusé risque la perpétuité. Ce 12 juin 2006, David Otia, son ex-compagne Alexandra, son frère Michael, accusé d'avoir caché l'arme, et le couple d'amis Stéphane et Isabelle Arenza, font face aux juges et jurés de la cour d'assises de Haute-Savoie à Sevrier. Tous les regards se portent sur David Otia, bras croisés, qui ne va cesser tout au long des audiences de gigoter sur son banc. Les proches de la famille Flactif sont abasourdis par les constatations des experts. En écoutant le détail des taches de sang, Michel Flactif, le père de Xavier, doit quitter la salle. Mario, désormais âgé de 17 ans, premier fils de Gradiella Flactif, aurait lui aussi été tué s'il avait été dans le chalet. Ses avocats demandent à Otia de regarder le garçon dans les yeux. « Monsieur Otia, Mario est là, il vous regarde. Il attend que vous disiez quelque chose », indique Maître Chevet. L'accusé répond « Présenter un pardon, à quoi ça sert? Il n'y a pas un mot que l'on peut dire. Non, je ne peux rien vous dire. » Les co-accusés, Alexandra et le couple Arenza, décrivent David Otia comme un personnage impulsif qui monte vite dans les tours. Ils disent avoir été sous l'emprise du mécanicien. Il prenait possession sur tout le monde, il prenait l'ascendant, indique Alexandra, devant un David Otia étrangement souriant. L'ex-compagne raconte qu'il l'a frappé, n'a pas assisté au premier accouchement ni au suivant parce qu'il affirme qu'il ne supporte pas la vue du sang. Un expert psychiatre parle d'un fantasme obsessionnel de David Otia, tuer les Flactifs. Fantasme auquel il aurait pu échapper si quelqu'un s'était opposé à lui, si par exemple, dit-il, Alexandra avait eu le courage de tirer le frein à main. Et effectivement, c'est un frein à main qui n'a pas été tiré dans cette histoire. Patrick Alain Bertoni, ce procès, il est attendu par beaucoup de monde. Je suppose que la salle est comble, la salle d'audience des assises.
La salle est comble, on canalise le public avec des barrières métalliques, mais très rapidement on s'aperçoit que rien de nouveau n'apparaîtra à la lumière des débats, puisque David Otia s'enferme dans un quasi-mutisme, y compris lorsque Stéphane Arenza le supplie, l'enjoint de parler.
Et là, il va se refermer, c'est ce que vous nous dites, Patrick Alain Bertoni. Maître Didier Lec, vous confirmez cette attitude?
Alors, déjà, je ne sais pas s'il gigotait dans son box.
C'est ce que j'ai lu dans la documentation d'époque.
Ce que je sais, en revanche, pour l'avoir vécu, c'est que comme l'administration pénitentiaire et l'institution judiciaire avaient peur que David Otia attente à ses jours, il était réveillé toutes les demi-heures, la nuit qui précédait les audiences. Bon. Chacun a vécu cette expérience, c'est vous dire la forme physique, indépendamment de la pression que constitue une audience d'assises de 3 semaines, matin, midi et soir, il n'était pas en forme. Donc il est possible qu'il ait bougé sur son box. Mais je pense qu'on lui reprochait des choses plus graves que celle-là.
Et pourquoi il
dit rien ?
Alors après,
l'idée de dire qu'il s'enfermait dans son mutisme, moi, c'est pas le souvenir que j'en conserve. En revanche, ce qui est vrai, c'est que vous aviez un président qui posait des questions. un avocat général qui soutenait la thèse de l'accusation. Et des partis civils, qui n'avaient pas d'ailleurs la même ligne, mais peu importe, des partis civils qui, en réalité, ne cessaient de demander à David Otia de dire ce qu'elles avaient envie ou besoin d'entendre.
Oui, mais c'est un
il y a quelque chose qui est totalement...
C'est un besoin légitime, maître.
La justice, elle est comme la plus belle fille du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Son job, son taf, c'est d'examiner un dossier et de dire si la personne qu'on lui présente est coupable des faits qu'on lui reproche. Tout le reste, qui consiste à faire une messe, de la psychologie, de préparer le deuil des uns et des autres, c'est de mon point de vue hors sujet. Et c'est vrai que lorsque David Otia avait à répondre à la 17e même question, après que le président lui ait posé 3 fois, l'avocat général 4, les parties civiles à 10 reprises, c'est vrai qu'il a dû arriver qu'à la 18e, il ait répondu « Je l'ai déjà dit, je ne dis plus rien ».
À l'exaspération. Général Daoust, vous êtes d'accord, les sentiments ont pris le pas dans ce procès? Alors c'est difficile aussi d'en faire abstraction totalement, avec des parties civiles totalement effondrées.
Dans un procès, il y a ce que la procédure prévoit, qui doit être mené, donc qui se veut aveugle, comme le juge de la justice est aveugle, impartial, et qui ne doit pas être dominé par l'émotion au risque d'emporter une décision qui ne serait pas ni équitable, ni juste, ni correspondrait pas à ce qu'on attend du procès. Mais il y a des parties civiles, il y a du public, il y a un écho médiatique qui fait qu'il y a toujours une montée d'émotions dans les procès.
Bien sûr. Et ça fait partie, c'est un théâtre, hein, je vous apprends rien, maître, vous connaissez les assises bien mieux que moi. Patrick Alain Bertoni, quel a été selon vous, est-ce qu'il y a eu des moments forts? Parce que vous dites qu'il ne parle pas beaucoup au tiers, ou il ne dit rien. Est-ce qu'il y a eu des moments forts dans ce procès?
Le moment le plus fort, dans mon souvenir, c'est lorsque Stéphane Naremza lui demande de dire la vérité.
Et il ne répond pas à ce moment-là?
Non.
Il se ferme, il ne répond pas. Mais de l'autre côté, il va continuer à assumer finalement ses crimes et à prendre tout sur ses épaules. Il ne charge personne d'autre.
Effectivement, il ne charge et il n'aura jamais chargé personne d'autre. Même si dans un deuxième temps, il dira n'être pour rien dans les assassinats, mais avoir été contraint d'accompagner les exécuteurs sur les lieux de la crémation. Et autrement, il ne balancera personne d'autre, alors qu'il paraît évident qu'il n'a pu. Alors, il a pu effectivement tuer tout seul toute la famille. En revanche, faire le ménage, transporter les corps dans l'aval, dans cette fameuse forêt, procéder à une crémation, retourner chez lui, ça paraît assez difficile qu'il ait pu commettre tout cela tout seul.
Oui, notamment le ménage, c'est une question qui va beaucoup revenir parce qu'on se demande comment il a fait en 2 heures, dit-il, pour nettoyer toute cette pièce. Juste un petit mot, maître Didier Lec, avocat de David Otia. Les complices, là, entre guillemets, ils le chargent, Otia. Ils disent c'est un type pas bien, c'est un violent, il est fou.
Stéphane Naremza a cette formule très imagée qui dit sur le caractère, mais qui ne disait rien d'un point de vue judiciaire, que David avait une propension à monter vite dans les tours.
C'est ça.
Et sa future ex-femme, Alexandra Lefebvre, oui, l'a chargée.
Le procès du massacre du Grand Bornan va durer 18 jours. Jusqu'au bout, les proches de la famille Flactif vont espérer que l'accusé principal leur parle, enfin. 30 juin 2006, la délibération des jurés est terminée. Les peines s'échelonnent entre 7 et 15 ans de prison pour les co-accusés. David Otia est pour sa part condamné à la perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Otia part pour de longues années en prison, sans avoir répondu à l'attente des familles. Jusqu'au bout, il est resté de marbre face aux demandes qui le pressaient de s'exprimer. De toute façon, je suis dans un cauchemar et j'y resterai jusqu'à ma mort. Vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, vous ne pourrez jamais obtenir de moi ce que vous me demandez. Jamais. David Otia sera le seul des 5 accusés à faire appel du verdict, persistant à dire que ses aveux ne valaient rien. Il se désistera toutefois le jour même de l'ouverture de l'audience, le 17 décembre 2007. Sa peine devient alors définitive, tout comme est définitif l'espoir perdu des familles de dire enfin pourquoi il leur a fait autant de mal. Maître Didier Lec, vous défendez David Otia.
à ce procès, effectivement, il a jamais craqué, jamais d'excuses. On a l'impression qu'il est insondable jusqu'au bout et qu'il s'est vraiment définitivement refermé. Il le dit lui-même, d'ailleurs.
Si vous voulez, je le vois mal, même si les experts avaient considéré qu'il avait une intelligence seulement moyenne, ce qui est peut-être le cas de votre serviteur. Je vois mal l'intérêt de présenter des excuses pour des faits dont on revendique être étranger. Donc déjà, la pression qui était mise sur lui, c'est ce que je disais tout à l'heure, consistante à vouloir absolument, de façon frénétique, je dis pas hystérique, mais de façon frénétique, à ce qu'il dise quelque chose qui ne correspondait pas à sa position, ça avait quelque chose, je l'ai dit, de vain ou d'absurde. Bon, ensuite, le procès a quand même révélé, vous avez indiqué tout à l'heure les conditions dans lesquelles il s'est terminé, mais le procès a révélé, de façon, de mon point de vue, tout à fait objective, un certain nombre de problématiques. Notamment, on l'a évoqué tout à l'heure, la question dite du ménage,
oui,
mais au-delà de ça, la question de l'arme. S'il a utilisé, je dis bien s'il a utilisé l'arme, de fait, on sait dans la procédure que cette arme avait été essayée et qu'elle n'avait pas fonctionné. Et pas pour des raisons de percuteurs, mais pour des raisons de munitions. Il y a eu, pendant le procès, une expertise qui a révélé que ce pistolet, avec les munitions qui avaient servi quelques années auparavant, ne fonctionnait pas. Si bien, c'est une hypothèse, que David pouvait parfaitement avoir pris cette arme, en quelque sorte, pour impressionner, mais en ayant la conviction sincère qu'elle ne fonctionnait pas. Et je termine par le plus important, la question de la combustion. Il y a eu des expertises en cours de procédure qui ont révélé que vous ne pouvez pas mettre 5 corps, les arroser d'essence et que ça brûle. C'est pas possible.
Général Daous, cette question justement de la combustion des corps, là aussi, il y a plein de mystères.
Oui, c'est très compliqué. La combustion, c'est quelque chose pour le répliquer où il y a plein de points d'interrogation. Scientifiquement, on peut faire un incendie, on peut brûler des corps, on peut, etc. Mais est-ce que dans les déclarations de David Othia, tout ce qui a été mis était suffisant pour obtenir une telle crémation? Là, la question reste encore entière. Et les experts là-dessus n'y ont pas forcément apporté de réponse tranchée parce que la commission est quelque chose de compliqué.
Alors, pardon de vous interrompre, mais moi je me souviens, je l'ai relu, que l'expertise disait que ça avait été évidemment simulé avec des porcs, qu'il fallait, je cite, 880 kilos de bois.
Oui, c'est ça.
Pour
c'est
parvenir ça. Au degré de crémation obtenu.
C'est un truc tout à fait.
Ce qui, évidemment, est absolument impossible.
C'est un truc tout à fait extraordinaire. Patrick Alain Bertoni, un mot sur les parties civiles, ces familles qui, là, on est en plein mystère pour la crémation, mais elles sont en plein mystère, j'ai envie de dire, ad vita aeternam, sur ce qui a pu se passer, finalement, même si le résultat est là.
Oui, effectivement, elles attendaient, comme disait Maître Lec, des réponses qui correspondaient peut-être à l'idée qu'elle s'était faite du crime. Mais le général Daous a raison, cette histoire de crémation qui aurait nécessité près de 900 kilos de bois restera un des grands mystères. C'est pour ça, et je l'avais dit précédemment, également sur RTL, que l'hypothèse de, comment dirais-je, qu'on ait découpé les corps, soit pour les brûler d'un côté ou s'en débarrasser de l'autre, a été évoquée dans le dossier. D'ailleurs, c'est un fonctionnaire des services juridiques de l'équipement qui avait soulevé cette hypothèse, mais on avait vérifié, le gendarme avait vérifié, et puis on avait mis cela sur le compte d'une imagination débridée, qui est là le rapport de synthèse, et qui ne s'appuie sur aucun élément de preuve, parce que selon ce fonctionnaire de l'équipement, Xavier Flactif aurait été victime de la vengeance d'un groupe immobilier autrement plus important que lui dans les pays de Savoie.
D'accord. Bon, effectivement, comme quoi, même des années après, on est toujours à se poser toutes ces questions. Je vous demandais d'être très synthétique, tous les deux derniers invités, s'il vous plaît. Maître Didier Lec, quelle leçon vous avez tiré, vous, de ce procès? Il n'y a jamais un procès qui ressemble à un autre. Celui-ci, quel souvenir il vous laisse?
Le souvenir qui me laisse, c'est exogène au sort particulier de David Othia. C'est lorsque la cour d'assises a projeté les rushs de l'émission de télévision dont on entendait un extrait, et où Alexandra Lefebvre s'exprime avec un langage assez vert sur la personnalité des flactifs. Et j'ai vraiment la conviction qui confine à la certitude que c'est pendant la diffusion de ces rushs que les jurés ont acquis la conviction qu'il fallait la condamner au maximum de la peine, c'est-à-dire 10 ans pour association de malfaiteurs, pour laquelle elle avait été mise en examen quelques semaines avant de comparaître devant la cour.
Ça a été donc un moment clé. Général Daoust, vraiment en deux mots, il y a eu une enquête extraordinaire, des prélèvements scientifiques remarquables dans cette histoire. C'est un cas d'école aujourd'hui, c'est l'affaire.
Alors c'est un cas d'école, et comme je le disais en introduction, avec c'était le commandant Jérôme Servetas, eh bien de construire une équipe de coordination des opérations criminalistiques de façon à ne rien oublier sur une scène de crime.
Et c'était réussi sur ce coup-là. Merci beaucoup, général François Daoust, maître Didier Lec, Patrick Alain Bertoni, d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.